Laudetur Jesus Christus.
Des tirs de roquettes ont visé la zone verte de Bagdad hier soir au moment où le Parlement tenait une séance un an après les législatives. L'Irak est toujours privé de tout nouveau gouvernement et président. Nous irons sur place. La Serbie, tantôt alliée, tantôt opposante à la Russie, rare pays européen à n'avoir pas imposé de sanctions à Moscou. Belgrade dit aujourd'hui ne pas vouloir reconnaître les quatre territoires ukrainiens annexés. Le fossé se creuse de plus en plus entre le pouvoir et l'Église au Nicaragua. Nouveau réquisitoire hier de Daniel Ortega qui semble fermé au dialogue. Gros plan sur la présidentielle au Brésil dans notre dossier. La première économie d'Amérique latine choisira dimanche qui de l'actuel président Jair Bolsonaro ou de l'ancien président Lula dirigera le pays ces quatre prochaines années.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Un an après les législatives, l'Irak privé de tout nouveau gouvernement et président vit sa pire crise politique post-2003. Des rivalités politiques intestines au sein de la maison chiite menacent de plonger le pays dans une guerre intra-chiite. Dans ce jeu politique complexe, chacun avance ses pions pour tenter de s'emparer du pouvoir alors que les militaires se déploient dans Bagdad et ressortent les blocs de béton armés pour contrer les manifestants.
Événement tant redouté qui pourrait dégénérer le troisième anniversaire samedi du mouvement de contestation Tichrine. Ce soulèvement de la jeunesse qui, en octobre 2019, dénonçait la corruption et l'incurie de la classe politique, avait été réprimé dans le sang. Plus de 500 morts et 21 000 blessés. Les Tichrines s'apprêtent à redescendre dans la rue pour faire tomber le système. D'autres n'en finissent pas d'hurler leur colère. Les partisans du clerc chiite Moqtada al-Sadr, grand gagnant des législatives d'octobre, mais qui au final a retiré tous ses députés du Parlement, faute d'avoir pu former un gouvernement, se sont à nouveau heurtés hier aux forces de sécurité pour pénétrer dans la zone verte où se tenait une session parlementaire. Leur but, déloger les corrompus et pousser à de nouvelles législatives. Dans leur ligne de mire, l'ex-premier ministre chiite Nouri al-Maliki, ennemi juré d'Al-Sadr, dont la coalition proche de l'Iran entend imposer un candidat au poste de premier ministre. Les analystes l'assurent, une guerre intra-chiite pourrait mener l'Irak à sa destruction, puis à sa partition. À Bagdad, Anne-Sophie Lemauve pour Radio Vatican.
Et puis hier soir, au moins 13 personnes ont été tuées dans des frappes iraniennes ayant ciblé le Kurdistan d'Irak. Elles visaient les groupes armés de l'opposition kurde iranienne accusée de soutenir les manifestations en Iran. Bagdad doit convoquer aujourd'hui l'ambassadeur iranien. Inacceptable, chaos, le président iranien justement hausse le ton face aux manifestants dont le mouvement gagne en ampleur jour après jour. Ebrahim Raisi a indiqué hier que les autorités présenteraient bientôt un rapport final sur les causes du décès de la jeune femme à l'origine des protestations. L'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, parle de 76 morts dans la répression et 1200 personnes arrêtées. 3 ans de prison supplémentaire pour Aung San Suu Kyi en Birmanie, c'est ce qu'a décidé la junte ce matin pour violation de la loi sur les secrets officiels. Le tribunal de Rangoon a également condamné son ex-conseiller, l'économiste australien Sean Turnell, à la même peine. La Corée du Sud accueille aujourd'hui la vice-présidente américaine Kamala Harris en tournée régionale. Au lendemain de tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord, ce voyage vise à renforcer l'alliance de sécurité entre Washington et Séoul. Pour se prémunir contre Pyongyang, Séoul participe aussi ce matin à des exercices trilatéraux anti-sous-marins avec Tokyo et Washington. Première manœuvre de ce type depuis 2017. Prise en étau entre Washington et Moscou, la Turquie abandonne finalement le système russe de paiement MIR. Les trois dernières banques turques qui acceptaient encore ce système ont finalement été contraintes d'y renoncer par peur de représailles américaines. Les États-Unis avaient annoncé mi-septembre des sanctions contre de hauts responsables du système bancaire russe, dont Vladimir Komlev, son directeur général. À Istanbul, Anne Andlauer.
Les touristes, entrepreneurs et exilés russes qui comptaient sur le système MIR pour faire des achats et effectuer des retraits en Turquie vont devoir se tourner vers des moyens alternatifs tels que les paiements en espèces ou les cartes bancaires du réseau chinois UnionPay. Halkbank, Ziraat et Vakıfbank, trois banques publiques qui autorisaient encore les transactions avec les cartes MIR, vont finalement y renoncer en boitant le pas aux banques privées İşbank et Denizbank. La nouvelle n'est pas une surprise. Recep Tayyip Erdogan avait annoncé le 22 septembre que son pays examinait les alternatives au système Mir, alors qu'un mois et demi plus tôt, à l'issue d'une rencontre avec Vladimir Poutine, le président turc avait au contraire affirmé vouloir élargir le champ d'application de ce système. Cette décision illustre la difficulté de la position turque. D'un côté, Ankara refuse de se joindre aux sanctions occidentales et parle même de renforcer ses échanges commerciaux avec la Russie. De l'autre, les autorités ne veulent pas mettre en péril une économie turque déjà fragile en s'exposant à des représailles économiques américaines. En août, Washington avait mis en garde les entreprises et banques turques commerçant avec la Russie contre de possibles sanctions. À Istanbul, Anne Loire pour Radio Vatican.
Trois Arméniens tués dans des affrontements avec l'Azerbaïdjan hier. Les combats meurtriers qui ont déjà fait près de 300 morts ont éclaté depuis le 13 septembre à la frontière entre les deux pays. Le calme était revenu ces tout derniers jours, mais la situation reste très très tendue entre les ex-républiques soviétiques. Dans le Caucase toujours, les files de Russes quittant le pays s'allongent en Géorgie. C'est l'administrateur apostolique pour les Latins du Caucase qui le confirme à l'agence italienne CIR. Monseigneur Giuseppe Pazotto a constaté 16 km d'embouteillage à la frontière. Ces 10 derniers jours, depuis l'annonce de la mobilisation partielle en Russie, près de 79 000 Russes sont arrivés en Géorgie. Les États-Unis et la Russie s'affrontent aussi sur un autre terrain que celui de la guerre en Ukraine. Les deux États se battent pour diriger l'agence de télécommunication de l'ONU. Peu connue, elle a un rôle crucial des satellites à la 5G et doit élire aujourd'hui son nouveau secrétaire général. L'Union européenne soutient la candidate américaine. C'est un des rares pays d'Europe à n'avoir pas imposé de sanctions à Moscou. La Serbie vient d'annoncer pourtant qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats des simulacres de référendum tenus dans les zones occupées d'Ukraine. Un louvoiement difficile à suivre depuis le tout début de la guerre. À Belgrade, Laurent Rouy.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'attitude serbe a quelque chose de byzantin au sujet de la Russie. Dernier épisode, l'annonce de la non-reconnaissance des référendums de Moscou en Ukraine, une décision apparemment en ligne avec Bruxelles. Mais le week-end dernier, le ministre des Affaires étrangères serbe signait un accord avec Sergueï Lavrov, au grand dam justement de Bruxelles. La non-reconnaissance par la Serbie de l'indépendance du Kosovo, son ancienne province, explique pour beaucoup l'attitude de Belgrade. Pas question de reconnaître des changements unilatéraux de frontières, ni en Serbie, ni en Ukraine. La position serbe étant soutenue aux Nations Unies par la Russie, ce pays, un allié historique, occupe une place privilégiée dans la diplomatie de Belgrade. Aussi, la Serbie n'impose pas de limitation à l'entrée des Russes sur son territoire et devient donc une terre d'asile pour les opposants à Poutine, tandis que la population est partagée entre un fort sentiment russophile et une volonté d'intégrer un jour l'Union européenne. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
La Floride sous les inondations catastrophiques après le passage de l'ouragan Ian. Plus de 2 millions de foyers n'ont plus d'électricité après ces vents violents et pluies torrentielles. L'ouragan avait auparavant frappé Cuba, tuant 2 personnes et plongeant toute l'île dans le noir. Les États-Unis déroulent le tapis rouge pour les îles du Pacifique. Washington a accueilli hier un sommet sans précédent pour cette région, soumise à la concurrence frontale de la Chine. En présence d'une douzaine de dirigeants et représentants des îles, le secrétaire d'État américain a assuré à ses partenaires qu'il pouvait compter sur les États-Unis. Ce sommet se conclut ce soir par un discours de Joe Biden. Le fossé se creuse de plus en plus entre le pouvoir et l'Église au Nicaragua. Le président Daniel Ortega s'est lancé dans une nouvelle diatribe contre l'Église hier, semblant vouloir rejeter toute éventuelle tentative de dialogue. L'Église n'est pas la seule cible du président Ortega, qui s'est élevé aussi contre le Chili et les États-Unis et qui a expulsé hier la représentante de l'Union européenne, Jean-Charles Puzolu.
Le gouvernement du Nicaragua a déclaré hier que l'ambassadrice de l'Union européenne, Bettina Mushate, était persona non grata, ce qui va entraîner de fait son expulsion. Il ne s'agit là que de la dernière d'une déjà longue série de mesures prises pour réduire au silence les voix discordantes après une répression particulièrement sévère des médias indépendants, dont la fermeture de plusieurs radios catholiques et puis aussi le musellement de l'opposition politique. L'ambassadrice de l'Union européenne avait appelé au rétablissement de la démocratie et à la libération des prisonniers politiques. Au mois de février, le même sort avait été réservé au nonce apostolique, Monseigneur Sommertag, puis l'Église catholique avait été la cible d'une vague de décisions. En août, l'évêque de Matagalpa s'était retrouvé assigné à résidence, accusé d'avoir planifié des violences. Monseigneur Alvarez avait alors reçu le soutien de l'ensemble de ses confrères, assurant que l'Église, par sa nature, proclamait l'évangile de la paix. Un mois plus tôt, une association dirigée par les missionnaires de la charité avait reçu un ordre de fermeture. Les religieuses de Mère Teresa étaient accusées de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Dans les faits, et présente depuis 1988, elle se consacrait aux plus démunis, aux adolescents abandonnés ou victimes d'abus.
Merci Jean-Charles Puzolu. C'est le plus grand pays d'Amérique latine, le 7e le plus peuplé au monde. Ce dimanche, le géant brésilien élit son nouveau président. 156 millions d'électeurs appelés à se prononcer au terme d'une campagne transformée en duel au sommet entre le président sortant, Jair Bolsonaro, et l'ancien président Lula Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro, conservateur, ancien capitaine de l'armée, élu avec 55% des voix en 2018. À son opposé, Lula da Silva, deux fois président, et 580 jours de prison pour corruption à son actif. Avant d'être blanchi par la justice. Ce chef du parti travailleur caracole en tête des sondages ces dernières semaines. Et quel bilan laisse le président sortant Jair Bolsonaro? Petit état des lieux avant le scrutin avec Sylvia Capanema, historienne du Brésil contemporain à l'université Sorbonne Paris Nord.
Le Brésil actuellement donc, est dans un état de difficulté économique et sociale. Donc nous avons une augmentation de la pauvreté et même de la famine avec 33 millions de personnes, c'est un record en précarité alimentaire. Nous avons 40% de travailleurs qui sont dans l'économie informelle, donc c'est aussi un record. Nous avons donc aussi un traumatisme qui vient de la pandémie, avec presque 700 000 morts du Covid. Et donc, tous les autres indicateurs sont très défavorables, les salaires, le coût de la vie comme partout. Et c'est pour ça que Jair Bolsonaro, il a pris deux mesures pour essayer d'être plus important dans les sondages, ce qui n'a pas eu d'effet, le gel de prix de l'essence et l'augmentation du montant et de conditions d'accès aux allocations familiales.
Selon les derniers chiffres, l'ancien président Lula est en tête des intentions de vote, mais est-ce qu'il y a une vraie dynamique de fond en sa faveur, ou bien au contraire, est-ce qu'il profite d'une insatisfaction croissante des électeurs brésiliens envers Jair Bolsonaro?
Il y a les deux. Il y a une dynamique dès les départs, donc quand Lula il annonce sa candidature, il va rassembler toute la gauche, et tous les mouvements sociaux. Et donc, d'autre part, aussi un rejet de Jair Bolsonaro qui est de l'ordre de 55%, qui est très important. Et Lula, il a construit une version selon laquelle sa candidature est celle du camp démocratique et Jair Bolsonaro représente le camp autoritaire et fasciste.
Jair Bolsonaro, en effet, a beaucoup critiqué les institutions. Il a dit qu'il ne reconnaîtrait pas une défaite. Est-ce qu'on peut s'inquiéter d'une contestation des résultats et d'un scénario à l'américaine comme on a vu lors de la prise du Capitole?
Il y a une chance qu'une situation comme celle qu'on a vue aux États-Unis, même des liens entre la famille de Bolsonaro et une partie des républicains liés à Donald Trump aux États-Unis. Il y a eu donc aussi, la justice a découvert qu'il y avait des hommes d'affaires qui sont à la base de soutien de Jair Bolsonaro qui essayaient de s'organiser pour organiser un éventuel coup d'État et contester les résultats électoraux. Mais ces hommes d'affaires ont été donc finalement alertés. La justice a lancé une alerte et ils se sont calmés de ce côté-là. Donc on peut craindre une rébellion, une occupation, une forme de contestation du résultat avec des soutiens les plus radicalisés de Jair Bolsonaro.
En 2018, le vote et le soutien des évangéliques avaient été crucial pour l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, qu'en est-il?
Ce n'est pas comme c'était le cas en 2018 où 70% ont soutenu Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, donc on a par exemple les soutiens des catholiques, ils sont 53% à soutenir Lula et seulement 28% à soutenir Jair Bolsonaro. Tandis que les évangéliques, ils sont 50% à soutenir Jair Bolsonaro et 32% à soutenir Lula. Donc il y a un impact moins important de ce soutien des évangéliques à Jair Bolsonaro qu'en 2018, mais il est plus important envers Jair Bolsonaro. Et les personnes sans religion sont 54% à soutenir Lula et 22% à soutenir Jair Bolsonaro.
Interrogée par Marine Henriot, Sylvia Capanema, historienne spécialiste du Brésil contemporain à la Sorbonne, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'actualité du pape, de l'Église et du monde revient à 13h, heure de Rome, et se prolonge sur www.vaticannews.va. Très belle journée.